monopode. Vous êtes un monopode, ça. Vous voyez, c'est un monopode. Vous êtes bon monopode. Hein? C'est à qui la pod? Il est à son papa, ouais. Elle est à son papa, hein. Oui, oui, oui. Et la tablette, elle est à qui? Hein? Elle est à qui la tablette? Ok. À son papa aussi? Oui, à son papa. À son papa, la tablette. Oui, 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 oui.
Bonsoir, c'est Grégory du 06. Je vais juste témoigner par rapport à un autre problème que vous ne connaissez peut-être pas, enfin que peut-être personne ne connaît, c'est le lot des poubelles dans les supermarchés. Ça fait quelques années que je suis numéro 4 dans la liste des gens qui récupèrent des déchets qui sont périmés de la veille ou du jour, ou même de plusieurs jours avant, d'ailleurs. Ils jettent avant. Je voulais juste témoigner une fois, j'ai fait la pêche miraculeuse de ma vie. 10 cartons de saumon. Du pur saumon. Ah, j'ai été heureux ce jour-là. C'était merveilleux. C'était le Papa Noël de ma vie, quoi. Salut. Vive la poubelle. Vive la France.
Bonjour Daniel, c'est Jean-Pierre, apiculteur dans la Haute-Loire. Je viens te proposer un sujet de reportage. Tu dois savoir que nos abeilles sont agressées par les insecticides qui bénéficient de la TVA 5,5 et par notre ministre de l'Agriculture qui, depuis plusieurs années, par dérogation, tous les ans, autorise l'utilisation de produits comme le criseur. Tous les ans, notre syndicat a recours aux tribunaux et gagne. Mais le temps que la justice se prononce, tous les ans, nos abeilles trinquent. Elles comptent sur toi pour les défendre et pour nous défendre. Car les abeilles sont les sentinelles de l'environnement et sans elles, plus d'êtres humains. Merci Daniel.
Chers amis, pourquoi êtes-vous si pessimiste à la base si j'y suis? Ce matin, sur France Culture, un banquier d'affaires était très optimiste. Voici quelques raisons de l'être. On va construire à Saint-Nazaire deux gros paquebots de luxe. Pourquoi faites-vous la tête? Ça ne vous concerne pas. Mais si, certains d'entre nous vont retrouver du travail. Ainsi, les très très riches partiront en croisière. Et cela grâce à vous. Ne soyez pas jaloux, il faut bien qu'ils se promènent après tant d'efforts. Et puis j'allais oublier, les fonctionnaires de la Commission européenne voient bien leur salaire augmenter. Vous êtes choqués? Mais c'est bien mérité, ils travaillent tant. Et puis soyez heureux, le célèbre footballeur David Beckham arrive en France avec femme et enfants. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir avec les frais qu'il va avoir? Faudrait proposer une souscription pour l'aider, ne croyez-vous pas? Chers amis, je vous le redis, ne vous faites plus de soucis. Tout ira bien maintenant. La crise est presque terminée. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.
Encore une très bonne émission à propos de André Gors. Je veux dire que c'est clair et radical ce qu'il a dit, quoi. L'écologie politique ne peut pas être autrement qu'anticapitaliste. Et de ce point de vue-là, c'est un peu savoureux ce que disait l'intervenant de l'émission, dont je ne connais pas le nom, vu que j'ai pris légèrement en cours, qui citait comme adepte de la pensée radicale d'André Gors, Cécile Duflot et d'autres. Bon, quand on a vu les tractations, cette espèce de repas de lentilles mené par Duflot et d'autres avec le PS pour les investitures, pour les élections à venir, quoi. Ça laisse quand même assez souriant, quoi. Allez, bonsoir. C'était Alain de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci à Marie. C'est Marie qui nous a laissé ce message pour faire le Père Noël le soir de Noël. Effectivement, c'est assez gratiné. Et puis ce message sur Cécile Duflot dans l'émission d'hier, on s'est interrogé, on ne croit pas qu'il ait été question de Cécile Duflot, mais effectivement, c'est pourtant bel et bien la question autour d'André Gors qu'on va retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire la compatibilité ou l'incompatibilité entre l'écologie et le capitalisme, l'écologie politique tel que conçu par André Gors et le capitalisme, surtout dans sa forme actuelle. Donc, deuxième volet aujourd'hui de ces entretiens avec André Gors. Je rappelle, il est mort en 2007, et les documents qui composent cette émission proviennent de nos confrères de France Culture, une série d'entretiens de 1991 avec André Gorz sur France Culture. Pourquoi André Gorz? Parce que depuis longtemps, pour justifier ses privilèges et les étendre, l'oligarchie a toujours su caresser le poil et la petite croupe de ces petits et grands négociants du savoir que sont les intellectuels. Bien rares sont les détenteurs de savoir qui ont mis leur savoir non pas au service du pouvoir, mais au service du contre-pouvoir. Et André Gorz est une figure de cette radicalité contestataire où les luttes du présent viennent chercher grain à moudre et boussole. Voilà comment on peut présenter aujourd'hui André Gorz pour cette deuxième partie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Je suis un producteur bio en Bretagne profonde depuis un quart de siècle. J'ai écouté vos émissions depuis toujours. Là, j'étais en train de couper du bois dehors, de ramasser du bois dehors. Et puis finalement, je suis resté écouter André Gorz, qui m'émeuve toujours. Mais votre commentaire vers la fin, un peu ironique au sujet des produits bio, je veux bien, parce que vous n'aimez pas la façon dont le commerce est dominé par le monopole du capital, et moi non plus. Et puis pour distribuer les produits bio, il faut du commerce. Moi, je vendais en direct au marché depuis longtemps. D'autres vendent ailleurs, ce n'est pas un problème. On peut critiquer les supermarchés, ce n'est pas mon propos. Là, je voudrais juste dire qu'il faudrait distinguer le produit du producteur. Le producteur fait partie des 200 ou 300 000 paysans bio en Europe qui ont refusé la chimie. Donc une révolte des paysans assez pacifique il y a un demi-siècle. Et ça, par contre, il ne faut pas le mépriser, parce que ça, c'était courageux et c'était une bonne chose à faire. Et André Gorz, il ne serait pas contre. Donc, ni Ivan Illich non plus, d'ailleurs, que j'ai rencontré, il n'aurait jamais supporté une telle amalgame entre produits et producteurs. Salut.
Bonjour. Looking for Nicolas Sarkozy, ce documentaire passé hier au soir sur Arte, enfonce le clou sur la lamentable présidence de cet homme durant ce quinquennat. Les journalistes étrangers, comme beaucoup d'entre nous, ont fait une analyse juste. Merci à William Carrel de nous avoir donné à voir et à entendre cette chronique du mandat de Nicolas Sarkozy. Pour ma part, je crie haut et fort, dégage Nicolas.
Salut Daniel. Le collectif d'usagers contribuables du secteur Gaceras, La Bastiole-Pouty remercie tous ceux qui ont signé la pétition pour le maintien de notre ligne de bus de ville. Pétition qui se trouve toujours à l'épicerie du quartier, le nombre de signatures augmente chaque jour. Nous attendons la date du rendez-vous avec les élus, espérons que cela ne tarde pas. Nous continuons d'agir pour faire entendre le mécontentement et nous vous encourageons à faire de même par le biais de courrier. Merci à la base si j'y suis, de nous accompagner dans notre lutte par le biais de son répondeur.
Bonjour à tous les repérés de là-bas si j'y suis. Ce sera Noël un peu en avance cette année, pas de cadeau, mais exceptionnellement notre repère se tiendra ce soir au canon à pâtes de Rosé à partir de 19h30. Pour ceux qui ne seraient pas déjà partis en vacances, nous vous avons préparé le sujet suivant. Que devient la virilité à notre époque? Pour aiguiller cette réflexion, nous nous demanderons quelle représentation de la virilité avons-nous et pourquoi est-elle souvent connotée négativement? Alors, la virilité est-elle une composante de l'identité masculine? Et de manière plus générale, quelle influence joue la société sur l'expression de la virilité? Pour ceux qui seront absents, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Pour les autres, à tout à l'heure, pour nous réchauffer avec un verre, rue Alsace-Lorraine, à Rosé.
Salut Daniel, un message pour ma princesse d'amour. Je t'aime, princesse. Bonne fête de fin d'année à tout le monde. Bisous.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, si j'y suis, avec Christophe Fourel, André Gorz, un penseur pour le 21e siècle.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, Christophe Fourel, on se retrouve aujourd'hui avec vous et André Gorce. Et autour d'un entretien qu'il a donné en 1991 à France Culture, à notre consoeur Marie-France Hazard sur France Culture. Et là, on va aborder la suite de son parcours et la suite de son œuvre et la suite de sa pensée. Inutile de dire que, en l'espace d'une heure, même une heure de là-bas, si j'y suis, on n'arrivera pas à épuiser son travail, mais on espère évidemment donner aux AMG et aux auditeurs en général l'envie de le découvrir ou de le redécouvrir. Alors son œuvre, elle est quand même assez compliquée parce qu'il est synonyme de l'écologie politique, mais il a un parcours quand même assez riche qui commence avec l'existentialisme, il devient un ami de Jean-Paul Sartre, il travaille longtemps à la revue Les Temps modernes, après il va rompre avec Sartre, j'y vais à grands pas là, hein. Il va rompre ou du moins se séparer un peu de Sartre, et puis au début des années 70, il va donc est un des cofondateurs ou un des grands penseurs, architectes, comme on voudra, vous allez me dire ce que vous en pensez, de l'écologie politique. Comment vous le présenteriez? Comment vous avez l'habitude de le présenter? Parce que vous avez travaillé beaucoup avec Gorce, vous l'avez bien connu, vous travaillez sur lui. Comment vous avez l'habitude de le présenter en quelques mots?
Je crois que les adjectifs que vous avez utilisés sont assez justes. Je crois d'abord que c'est un philosophe autodidacte, et qui, effectivement, est un philosophe du sens à notre existence, du sens de notre société, dans la façon dont elle se construit. Et c'est effectivement quelqu'un qui est un des pères spirituels, pourrait-on dire, de l'écologie politique. Même si, comme on a pu le dire déjà dans la séance précédente, il n'a pas traité directement des problèmes écologiques comme l'effet de serre ou les problèmes de la biodiversité dans son œuvre. Il n'empêche qu'il a beaucoup inspiré les écologistes dans les années 70. Il est venu, il le disait lui-même comme ceci, il est venu à l'écologie politique par la critique de la société de consommation auquel il s'était attaqué, si vous le voulez bien, dès le début des années 60. Et c'est vrai, vous avez raison, André Gorce est un auteur qui fait référence, qui est subversif, puisque André Gorce, sous son autre pseudonyme, on y reviendra certainement, Michel Bosquet, quand il était journaliste au Nouvel Observateur, a beaucoup traité des questions d'écologie politique et également du nucléaire et de la dangerosité de ce mode de production d'énergie, et dont on voit bien aujourd'hui, finalement, que à certains égards, on peut se dire qu'André Gorce n'avait sans doute pas tort.
Alors, on dit André Gorce, on a évoqué ses noms multiples, Gerhard Hirsch, Gerhard Horst, c'était ses noms, on a expliqué ça. Vous avez évoqué son pseudo de Michel Bosquet, son nom de journaliste, à l'Express, puis au Nouvel Observateur, qui n'étaient pas forcément les mêmes journaux à l'époque où il y travaillait qu'aujourd'hui, soit dit en passant, mais il a quand même une histoire d'identité. Et on a dit anticapitalisme, on va parler du communisme tel qu'il le définissait. Et alors, il y a un mot qui a disparu du langage, je trouve, c'est le mot masse. Il y a un mot qui s'employait beaucoup dans les années 60, 70, c'était les masses populaires, même les masses médias, on dit les médias maintenant, on a enlevé masse. Et c'est un mot qu'on trouvait facilement dans les discours révolutionnaires chez les progressistes, et ça voulait dire un mot qui s'opposait à l'idée d'individu. L'individu, c'est pas bien, les masses, c'est bien. Et individu, ça fait égoïsme, ça fait chacun pour soi. Or, Gorce rejetait cette opposition-là. Pour lui, l'émancipation collective était liée à l'épanouissement individuel. Il tenait beaucoup à cette idée-là de l'épanouissement individuel. Il a beaucoup travaillé sur la personne, sur sa propre personne, sur sa propre identité. En même temps, évidemment, qu'il aspirait, comme nous tous, à l'émancipation collective. Voilà comment il expliquait son nom, comment il expliquait finalement pourquoi il s'appelait André Gorce.
Quand j'étais à l'Express, j'avais élaboré une méthode d'autocompréhension et de remaniement de vous-même, qui, à partir d'un certain nombre de questions concernant votre situation de départ, les possibilités qu'elle impliquait, votre choix, ce que j'appelais le choix originel, etc., etc. Donc, en posant ces questions, je pensais que une personne pouvait se remanier et changer la façon dont elle était fabriquée, structurée, conditionnée au départ. Je me suis lancé dans l'application de la méthode à moi-même. Et c'était donc le traître, qui était, si vous voulez, mon auto-analyse, non pas une analyse freudienne, mais ce que Sartre avait appelé une analyse existentielle. Bien sûr que ça se terminait, et même que ça comportait tout au long des considérations assez subversives concernant la société, la bourgeoisie, l'oppression, l'exploitation, l'aliénation du monde, le fait que la plupart des gens vivent dans un monde qui n'est pas le leur, mais celui des autres, c'est-à-dire des dominants. Toutes ces choses, si je les publiais sous mon nom, empêchaient ma naturalisation que j'avais demandée, française. Ouais. Parce que le régime, à l'époque, était férocement, pas seulement anticommuniste, anti-gauche. C'est pas qu'il y avait des structures clandestines où on arrêtait tout ce qui fleurait vaguement, plus ou moins vaguement la gauche, pour les arrêter en une nuit, en cas de danger pour l'ordre établi. Alors c'était dans les années 50. J'ai choisi le nom de Görz, qui a aussi des raisons historiques, parce que Görz est une ville qui s'appelle Görz en réalité, c'est-à-dire qu'avec un tréma sur le haut, un umlaut sur le haut, en Istrie, qui n'a jamais su à qui elle appartenait, de quelle était son identité. Elle s'appelle Gorizia pour les Italiens, Gorica pour les Slovènes, et Görz pour les germanophones, c'est-à-dire les Autrichiens. Et je connaissais cette ville parce que mon père m'avait fait cadeau d'une paire de jumelles de l'armée austro-hongroise sur laquelle il y avait simplement écrit Görz. Et cherchant un nom qui me pouvait me convenir et qui avait vaguement la même assonance que le mien d'origine, j'ai choisi le nom de cette paire de jumelles. Et je n'écris que sous le nom de Görz.
Voilà, André Görz. Pourquoi André Görz s'appelait André Görz ? Alors, c'est un philosophe de l'écologie politique, c'était un journaliste, c'est un homme qui se présente avec un discours rationnel, et il nous fait partager les fruits de ses réflexions, de l'esprit, de la raison, etc. Mais enfin, tout l'aspect sensible, obscur, inconscient de sa personne, de son parcours et de ce qu'il dit de lui-même est à l'origine aussi de son œuvre et de son travail. Il dira, on l'entendra un peu plus loin dans un entretien de 2006, lors de la publication de cette fameuse lettre à D, la lettre qu'il adresse à sa femme un an avant leur suicide commun. Ils se suicideront ensemble, ils disparaîtront de cette façon. Il dira, en hommage à sa femme, elle m'a fait surmonter le refus d'exister. Donc, dans cette histoire d'identité, il y a aussi une histoire d'existence qu'on retrouve chez Sartre dans l'existentialisme, etc., dans la nausée, qui est quand même qu'est-ce que je fais là, quoi ? Qu'est-ce que je fais là ? À quoi je sers ? Qu'est-ce qui me tient ? Qu'est-ce qui fait que je suis debout, etc. Il fera comme Sartre. Il se consacrera à l'engagement politique, à la réflexion, à la philosophie. Il rejoindra les grands courants des pensées progressistes, disons, pour simplifier. Mais enfin, il y a quand même, au départ, et tout le long de sa vie, et jusqu'au terme de cette vie même, qui se finit, comme je viens de le dire, quelque chose de très intime et de très personnel qui apparaît dans cette considération sur l'enfance.
Toute personne a commencé par être un enfant. Toute personne a commencé par être un enfant, ce qui veut dire que les critères de jugement, la structuration de sa personne qui va la caractériser dans son âge adulte, lui a été imposée à une époque où il ne pouvait pas se défendre contre elle. Et qu'il a vécu sa socialisation, comme on dit, c'est-à-dire son éducation, il l'a toujours vécu comme une violence et un arbitraire qui lui était imposé. Il y a toujours une réserve d'insoumission, de rébellion, de contestation dans toute personne. Personne ne peut s'identifier avec son être social, totalement. Et c'est cet écart entre le vécu personnel et l'image de soi-même que la culture, que la société vous oblige d'assumer, c'est cet écart qui fait la créativité artistique, culturelle, philosophique d'une personne. Si cet écart ne se donne pas, ou n'a pas la possibilité de se donner les moyens de son expression, c'est-à-dire d'une contestation qui est la liberté même de se remanier et de se redonner une existence que l'on ne tient que de soi-même, alors évidemment vous tombez dans le conformisme et l'utilitarisme le plus plat, et vous n'avez que des individus qui sont à peu près pareils les uns aux autres. Mais ce qui est l'idéal, en un sens l'idéal non dit, d'une société de consommation, c'est de produire des gens qui se reconnaissent dans l'image d'eux-mêmes qu'un produit est censé leur refléter, et qui s'en satisfont.
André Gorce, en 1991, sur France Culture, c'est quand même assez radical, ce qui est dit là.
Oui, c'est radical, et en même temps, je crois qu'on est au cœur de ce qui a été le matériau qui a permis l'élaboration de son œuvre. Cette idée de tenter de se remanier, c'est-à-dire qui a été effectivement tout l'effort qu'il a fait au travers le livre qui s'appelle « Le traître », cette idée qu'en partant de l'histoire telle qu'elle nous a fabriquée, que ce soit l'enfance ou le lieu de sa naissance et du moment de l'histoire avec un grand H dans lequel effectivement on est venu au monde, de savoir s'il était possible de procéder à un remaniement complet. Dans Le Traître, il tente cet exercice-là. Puis, à la fin, il s'aperçoit que ce remaniement complet n'est finalement pas possible, mais en même temps, il pointe le fait que la prise de conscience de qui on est et la façon dont on peut en tirer parti et dont chaque sujet, en faisant ses choix, peut en tirer parti, est une très bonne façon pour, comment dire, exprimer sa créativité, comme il le dit lui-même à l'instant, parce que justement, dans la créativité, c'est le moment où on est le plus soi-même. Et par là même, et la fin de l'extrait qu'on vient d'entendre est assez révélateur là-dessus, il commence à laisser entendre que notre société, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, réduit de plus en plus les hommes à des états de marchandises. Aujourd'hui, les hommes sont contraints de se vendre, finalement, pour survivre dans le cadre d'un contrat de travail dont on sait qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus précaires. Et donc, cette soumission à cette logique économique fait que les hommes sont un peu réduits à l'état de marchandises, et que quand on est réduit à l'état de marchandises, pour Gorce, on ne peut rêver qu'à des marchandises, et donc participer par là même à finalement la logique de la société de consommation.
On va voir comment il a été découvert relativement par le public français, c'est à la fin de sa vie, avec cette lettre à D, une sorte de testament amoureux, adressé à son épouse. Et tout d'un coup, cet homme, évidemment, de raison, de réflexion, de retenue, à la fin, adresse à son amie et femme et amour une lettre absolument magnifique qui va frapper les imaginations par l'émotion très profonde, ce qui va permettre d'ouvrir, pour beaucoup, l'accès à l'ensemble de son œuvre. C'est un texte court et absolument bouleversant, Lettre à D, Histoire d'un amour. C'est une ode à son épouse, Dorine. Tu vas avoir 82 ans, tu as rapetissé de 6 cm, tu ne pèses que 45 kg et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais.
C'est un livre par accident. C'était une lettre, c'était un hommage que je voulais faire pour le 82e anniversaire de D. Et c'est devenu assez long. Et j'ai dit, on va essayer de le publier. Elle a dit, tu ne me feras pas ça, ça m'embarrasserait beaucoup. Et je lui ai dit, mais ne t'en fais pas. Je veux que ce rôle déterminant que tu as joué dans tout ce que j'ai fait et vécu, qu'il en reste une trace. Parce que pour le moment, il n'en restait pas. Ce qu'il fallait, c'est la libération, non plus de l'esprit, mais de l'émotion. C'est qu'il fallait que je fasse sentir Adé ce qu'elle avait été, ce qu'elle était pour moi. Sinon, on ne peut pas écrire une lettre autrement.
Et c'est ça qui fait qu'il émerge de temps en temps des morceaux qui sont émouvants.
Est-ce que vous avez appris quelque chose en l'écrivant ?
Si. J'ai appris à me laisser aller davantage. J'ai appris à dire des choses que j'avais jamais dites jusque-là. Mais oui, c'est ça de notre histoire. C'est-à-dire qu'elle m'a fait surmonter le refus d'exister. Donc, j'existais quand je lui écrivais ça. Et c'était un choix de montrer qu'elle m'avait fait exister et que j'existais pour elle. Mettons que c'est l'un des rares moments où je m'assume en tant qu'être sensible et sujet. Je m'assume non pas philosophiquement, mais émotionnellement.
C'est un texte dont vous avez parlé à D quand vous l'avez commencé ?
Absolument pas. Non. Elle voyait que j'écrivais quelque chose, je lui disais que ça nous concernait tous les deux, mais je n'ai pas dit ce que c'était.
Donc vous saviez qu'il y avait ce texte qui était en train de s'écrire, sans savoir très bien ce que c'était ?
Comme elle est toujours en train d'écrire quelque chose, pour moi c'était dans la norme habituelle.
Mais vous n'en parlez pas, en général, de ce qu'il écrit, ensemble ?
Avant qu'il a bien avancé dans ses écrits, non.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé en le lisant, si c'est une question à laquelle on peut répondre ?
C'est difficile de répondre. J'étais bien sûr très touchée.
Et vous avez été surprise ?
Oui.
Voilà, Dorine Gors et André Gors répondant à Béatrice Leca de France Culture en 2006, le 20 décembre 2006. Et quelques mois plus tard, le 24 septembre 2007, il se suicide à l'âge de 84 ans, André Gors, en même temps que son épouse Dorine. Voilà, c'est leur geste final. On continue avec André Gors, on revient en arrière, dans sa vie, dans sa pensée, dans ses considérations, avec vous, Christophe Fourel. Il était journaliste, il ne faut pas l'oublier, sous le nom de Michel Bosquet, et il a beaucoup écrit sur l'écologie dès début des années 70 dans ce hebdomadaire qui s'appelait Le Sauvage. C'était un hebdomadaire ?
C'était un mensuel. Voilà. Il y avait, au début des années 70, il y avait deux journaux, disons, qui se réclamaient de cette mouvance naissante de l'écologie. C'était effectivement Le Sauvage et puis La Gueule Ouverte, à laquelle il a un petit peu donné des contributions également. Mais il a été effectivement très tôt, dès la naissance du mouvement écologiste. Donc ensuite, André Gors, Michel Bosquet, a beaucoup œuvré pour développer la pensée écologiste, l'écologie politique en France.
Alors, si vous voulez, j'ai été un des premiers à répercuter les thèmes écologiques dans la grande presse. Mais je n'ai pas été celui qui a inventé le mouvement et l'orientation écologiste. En France, les premiers ont été les gens qui ont fait la marche sur Fessenheim en 1969 ou 70. Mais bref, il y avait une prise de conscience mondiale à partir de 72 du fait que non seulement la croissance ne peut pas continuer indéfiniment, c'est-à-dire la croissance asymptotique, vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement. Dans ce qu'il y a d'écologie scientifique, personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Ce qui s'impose à nous, c'est une régression global de la consommation matérielle.
Il avait comme définition, disons, de l'écologie, d'abord le souci du milieu de vie dans lequel les gens évoluent et qui est le déterminant de la qualité de la vie et de la qualité de la civilisation. Mais pour lui, je crois que avant tout, le mouvement écologiste était un mouvement de protestation, en fait, contre, je dirais, la confiscation de l'espace public par les méga-industries. Voilà, mais lui, c'était lutter contre la domination, lutter contre la destruction du bien commun par des puissances privées, finalement, auxquelles il essayait de faire prendre conscience et donner corps à ce mouvement, puisque dans son esprit, puisqu'il était arrivé à l'écologie par la critique de la consommation, le consommateur individualisé est fondamentalement le contraire du citoyen qui se sent responsable du bien commun.
Le projet de société écologique est un projet qui cherche à subordonner, à soumettre la vie, surtout la vie économique, et le développement économique à des critères qui ne sont pas économiques. C'est un projet culturel. Bien sûr qu'un projet culturel a toujours et nécessairement une dimension éthique et affirme l'autonomie du culturel et de l'éthique par rapport à l'économique. Alors que tous les autres, les libéraux, font l'inverse. Ils subordonnent le culturel et l'éthique à des critères de rentabilité et à des calculs coûts-avantages. L'écologie, c'est un changement radical et fondamental des rapports de l'homme, bien sûr, à la nature, mais aussi à lui-même et à ce que est ou doit être la société, certes. Et donc, c'est une nouvelle culture. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle culture ? Depuis toujours, on appelle culture le réservoir d'interprétation, de normes, de traditions, de valeurs, à partir desquelles se forme et se structure votre sensibilité, vos goûts, votre sens du beau, du vrai et du juste. La culture est ce qui vous fournit les critères en vertu desquels vous pouvez décider ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce qui mérite d'être fait, ce qui ne mérite pas d'être fait, ce qui mérite d'être l'objet d'une entreprise économique nécessairement rentable et ce qui ne doit pas faire partie d'une entreprise économique nécessairement rentable. À partir du moment où les critères d'évaluation de ce que doit être et doivent être les buts d'une activité économique et sociale, ces critères d'évaluation sont eux-mêmes soumis à l'évaluation économique sous forme de la question « la culture, est-ce que c'est rentable ?» vous renoncez à tout critère d'évaluation. Vous n'avez plus comme critère d'évaluation suprême, unique et suprême, que la question de savoir est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que ça permet d'expansion et la santé de l'entreprise, est-ce que ça ne la permet pas. Donc, vous n'avez aucune orientation. Le seul but dans la vie et le seul critère de réussite, c'est gagner de l'argent, croître. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que nous avons perdu tout repère et tout sens du haut et du bas, du bien et du mal, et que finalement la question qui se pose à nous, c'est en vertu de quoi est-ce que, vu que l'évaluation économique est le critère suprême, en vertu de quoi est-ce que nous n'abolissons pas le repos dominical, puisque ça permet de rentabiliser beaucoup mieux les installations, ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Et si vous allez par là, où est-ce que vous voulez vous arrêter ? Ne serait-il pas plus rentable de laisser mourir les gens à partir d'un certain âge, puisqu'ils ne sont plus productifs ?
André Gorce, en 1991, c'était il y a 20 ans. Il faut rappeler que André Gorce est mort en 2007. Là, on va écouter un autre document, toujours provenant de France Culture. C'était en 1979 et il débattait avec Paul Thibault, directeur de la revue Esprit, sur les outils. C'est-à-dire ce moment où les outils, qui doivent être évidemment à notre service, nous domine. Et c'est le marteau sans maître. C'est la métaphore du marteau sans maître, le moment où le marteau échappe de la main de l'homme et fait ce qu'il veut. André Gorce, 1979.
Passé un certain seuil d'industrialisation de nos moyens de vie, notre autonomie, notre sphère d'autonomie individuelle, au lieu de s'agrandir, est détruite. Je peux formuler ça autrement. Je dirais que, passé un certain point, les outils par lesquels l'homme prétend dominer la nature se retournent contre lui comme le dominant lui-même. C'est-à-dire qu'il est dominé par les outils de sa domination sur la nature. C'est assez évident si l'on prend les grandes concentrations industrielles ou si l'on prend, par exemple, les centrales nucléaires, dont, comme d'ailleurs dans l'industrie du siècle dernier, Le fonctionnement ne peut être assuré que par une militarisation du travail comportant une hiérarchie et une discipline extrêmement rigide. Donc nous avons bien là un effet de domination de l'outil qui se retourne sur l'homme et qui, bien sûr, est un outil entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose, d'un sujet toujours absent, ce sujet étant le processus d'accumulation que moi j'appelle capitaliste. Il n'y a pas de nécessité technique a priori de recourir aux grands outils plutôt qu'à des outils plus petits, nous le savons aujourd'hui. Les effets d'encombrement, de destruction de l'environnement, de pollution d'un certain nombre de grands outils industriels provoquent des effets de contre-productivité, c'est-à-dire accroissent nos besoins plus vite que nous ne pouvons les satisfaire. Nous devons reproduire l'air, l'eau, etc. Nous n'avons plus de soleil, le ciel n'est plus transparent et nous devons racheter finalement au compte-gouttes ce dont la surindustrialisation nous a privés par destruction. Donc je ne dirais pas qu'il s'agit d'une option morale a priori dans ce qui est aujourd'hui la protestation, le courant de révolte contre la logique de développement dans laquelle nous nous trouvons. Il s'agit de choses qui sont inscrites dans notre environnement matériel même et qui suscitent cette révolte. C'est-à-dire qu'il y a une critique de l'outil à faire, mais cette critique nécessairement débouche sur la critique de notre mode de développement et notre mode d'industrialisation qui ne sont pas en eux-mêmes techniquement nécessaires. Et nous voyons aujourd'hui techniquement, grâce à la microélectronique, s'ouvrir la possibilité d'une réduction de la taille des outils, de la maîtrise de l'outil par les gens, d'un accroissement de la production de valeur d'usage avec diminution de la durée du travail, toutes choses qui sont la condition d'une société détendue, où les rapports marchands ne dominent pas, où l'épanouissement des individus peut être le but de toute activité. Bref, toutes choses qui sont la définition même de ce que l'on appelle le communisme, historiquement tel qu'il a été défini, et en même temps, nous avons le rejet précisément de cette référence au communisme parce que c'est un mot qui est démonétisé à cause de l'usage qu'on en a fait et une idéologie qui nous présente la libération de notre temps grâce à l'automatisation, l'extension possible de notre sphère d'autonomie grâce à la miniaturisation des outils. On nous présente tout cela comme des dangers pour l'emploi. Au lieu de dire que notre travail est devenu superflu et que nous devenons libres, on nous dit que le travail devient rare et que nous sommes menacés par le chômage. Donc nous nous trouvons au seuil d'un bouleversement possible de la logique de production que tout le monde ressent fortement, en même temps que d'une sorte de censure sur la possibilité, la réalité de la possibilité de ce bouleversement. À mon avis, le seul après-capitalisme qui soit imaginable, c'est ce que, à l'époque de Marx, on appelait le communisme, qui n'a pas grand-chose à voir, effectivement, ni avec ce que représentent les partis communistes, ni avec ce que représentent les régimes qui s'en réclament. Et ce communisme, tel qu'on l'entendait au siècle dernier, est une civilisation où le temps libre l'emporte sur le temps de travail, où la production sociale est subordonnée aux besoins et aux désirs des individus et particulièrement d'individus riches entièrement développés, individualité riche entièrement développée, ce qui n'a jamais été le cas, où la coopération volontaire et l'association prennent la place des contraintes et des nécessités extérieures, et où la production est dégagée de la logique de l'accumulation. Rien de tout cela nous est proposé. Et en dehors de cela, précisément, il n'y a que continuation de l'accumulation sous d'autres formes, au besoin par destruction de ce qui a été accumulé précédemment. Et en particulier, le socialisme, même le socialisme tel que l'entendent les socialistes classiques en France, est une continuation du capitalisme sous d'autres formes, c'est-à-dire un autre avatar de l'accumulation.
André Gorce, en 1979, en écoutant, on se dit « mais c'est vrai quand même, toutes ces avancées technologiques formidables » aurait dû nous libérer. On peut se dire que tous ceux qui travaillent à l'élaboration de ces technologies, qui travaille à tous les niveaux, que ce soit l'ingénieur jusqu'à celui qui emboîte les fils dans les prises, tous se disent bah, « c'est formidable, ça nous libère tout ça ». Et on a l'impression que c'est le sens de notre modernité, du progrès, etc. Or, en écoutant Gorz, on se dit « mais c'est vrai, c'est le contraire qui s'est produit, ça a entraîné une régression, puisque en réduisant la quantité de travail, on a créé du chômage, et donc c'est l'aliénation et les misères des temps actuels.
Oui, je crois que vous avez raison. Dans cet extrait-là, qui est tout à fait intéressant, de 79, on reconnaît bien Gorz, le théoricien de l'aliénation, dans une filiation tout à fait marxiste et qu'il assume parfaitement et qui est, de ce point de vue-là, tout à fait intéressant. Marx était de tous les philosophes hégéliens celui qui disait que la philosophie, ça servait d'abord à réaliser le socialisme. Et d'une certaine manière, on retrouve bien Gorz s'inscrire dans cette logique-là. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cet extrait où il parle du communisme comme utopie, on voit bien à quel point André Gorz, si vous voulez parler de l'utopie, c'est toujours un petit peu difficile parce que l'utopie est à la fois ce qui fait changer la réalité et ce qui est incapable de la changer. Donc c'est toujours une espèce de ligne de crête. Il y a une mauvaise utopie, une bonne utopie. La mauvaise utopie, c'est celle qui vise à la perfection, une société sans drame, totalement harmonieuse. Et donc là, c'est le meilleur des mondes, si on peut dire. Et puis vous avez la bonne utopie, si je puis dire, et c'est celle qui transparaît, je trouve, dans les propos d'André Gorz à l'instant, c'est de nous dire ce qui n'est pas possible dans l'immédiat, mais qui pourrait devenir possible. Et là, on est plus dans la logique, non pas du meilleur des mondes, mais d'un monde meilleur. Et il est plutôt dans cette logique-là de l'utopie quand il parle effectivement de la possibilité que nous offre aujourd'hui la technique pour nous libérer du travail, parce que Gorz considérait que le temps libéré est une richesse, qui a une valeur existentielle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, on est incapable de rentrer dans une réflexion de cet ordre-là.
André Gorz, 1979.
On a toujours imaginé la révolution comme un bouleversement instantané, où une société est détruite et une autre mise à sa place. Nous savons que c'est jamais comme ça que ça se passe. S'il y a un processus révolutionnaire brusque, la société mise en place portera en elle beaucoup des perversions de celle qu'elle a remplacée. Si la destruction des pouvoirs de domination ne se font pas dans la société qui est destinée à mourir, celle qui la remplacera, après destruction violente de cette société-ci, ne voudra pas mieux. On a dit dans le passé que la classe ouvrière, et Marx le croyait, s'approprierait le pouvoir bien avant que naisse le pouvoir d'État, et que le pouvoir d'État de la bourgeoisie serait détruit dans les faits avant de l'être politiquement. Je crois qu'aujourd'hui, si je n'ai plus employé le terme de classe ouvrière, c'est que celle-ci n'a pas la même constitution qu'elle avait à l'époque de l'industrie taylorienne. Nous ne savons plus où commence et où s'arrête la couche des producteurs. Mais nous savons où commence et où s'arrête l'effet de domination. Nous savons quelle est la population qui est assujettie à une domination par le pouvoir central et le pouvoir technocratique. Mais nous ne savons plus au juste quelle est la position des techniciens, des informaticiens, des salariés, des PTT, des banques, etc., etc., dans le processus de production. C'est pourquoi Touraine, par exemple, ne parle plus que de population. Il désigne par population ce que d'autres appellent les masses, ou qu'en Italie on appelle le prolétariat, au sens le plus extensif. C'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie de l'appareil de domination, qu'il soit étatique ou institutionnel. Et nous voyons bien aujourd'hui que la radicalisation la plus manifeste et la plus agissante émane souvent non plus d'une avant-garde de la classe ouvrière, mais de ceux qu'on veut nous présenter comme des classes moyennes et qui sont en réalité des travailleurs prolétarisés dont l'appartenance de classe n'est pas claire. Et moi, je trouve ce fait positif que l'appartenance de classe ne soit pas claire, parce que je ne vois pas comment une société sans classe naîtrait s'il n'y a pas dissolution des classes avant même sa naissance.
Voilà, André Gorz, en 1979, j'écoute cet extrait, Christophe Fourel, et je pense à des scènes que j'ai vues à Madrid, avec les indignés dans leur débat, et on a assisté à un débat qui était réforme ou révolution. Alors, des gens qui disaient « Ah mais non, la révolution, c'est trop radical, c'est violent, il faut aller vers la réforme, et puis petit à petit, et puis par la base, et l'autoritarisme, enfin toutes ces questions dont on débat depuis déjà fort longtemps, étaient à nouveau débattues à Madrid. Et là, ce que vous me dites, c'est que ce dont parle Gorz, là, c'est en référence à un de ses ouvrages qui s'appelle « Réforme et révolution », et qui est de 1969, donc c'était des débats 68 ans.
Oui, c'est assez intéressant parce que effectivement, on sent bien que André Gorz, dans cet extrait, fait référence à effectivement des réflexions qu'il a déjà écrites dans ce livre « Réforme et révolution ». Et puis en même temps, il est sur le point à ce moment-là, en 1980, il fera paraître « Adieu au prolétariat », qui est un ouvrage qui fera beaucoup de débats. Donc, c'est un an, juste un an avant la parution de « Adieu au prolétariat », où André Gorz rentre un petit peu en porte-à-faux avec la gauche de l'époque et le syndicalisme en particulier, parce que dans ce livre, il bat en brèche un petit peu la religion du prolétariat, qui était portée par certains mouvements à gauche à l'époque. Et puis surtout, il avait dans ce livre mis en évidence la naissance de ce que lui appelait encore peut-être un peu maladroitement la non-classe des non-travailleurs qu'on a déjà évoqué, mais d'une certaine manière qui font écho avec Los Indignados que vous avez rencontré à Madrid, parce que ce sont la non-classe des non-travailleurs, ce sont tous ces gens qui ne peuvent pas se retrouver dans le travail qu'on leur donne à faire et qui ne peuvent pas se reconnaître à travers le travail qu'on leur propose de faire ou de ne pas avoir d'ailleurs, parce que d'une certaine manière, c'est une frustration absolument colossale que finalement de voir ces jeunes qui, pour la grande majorité d'entre eux, sont très diplômés, ont acquis une éducation et le système éducatif leur a permis d'acquérir des connaissances et, comment dirais-je, des diplômes, et se retrouver dans une situation où finalement, eh bien, ils sont complètement en porte-à-faux par rapport à ce que, aujourd'hui, le marché du travail peut leur offrir. Et je crois que le mouvement est intéressant à regarder de près, et vous le faites, parce qu'elle interroge notre société sur sa capacité aujourd'hui à se poser des questions sur elle-même. On parlait tout à l'heure du temps libéré et que faire du temps libéré. On est pris dans un tel étau aujourd'hui qu'on n'est même pas capable. Ouais. C'est quand même ahurissant de penser qu'on a les possibilités d'avoir du temps libre beaucoup plus et malheureusement, ça devient un problème. Donc je crois que des mouvements comme celui que vous avez vu à Madrid posent ces questions sur la société. Est-elle capable de se poser des questions sur le sens de son développement et puis de montrer à quel point aujourd'hui la logique économique, la valorisation économique n'a jamais était aussi destructrice de sens.
Partout en Espagne, sur les places, on voit ces occupations et des milliers de textes auront été écrits, des milliers de slogans, de pancartes, de tout petits textes ou de textes plus importants. Mais il y en a un avec lequel je veux finir là, cet entretien sur André Gorz. Et en écoutant André Gorz, c'est celui-ci, c'était sur la Puerta del Sol, un panneau écrit sur un morceau de carton qui disait « Nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution ».
Je crois personnellement que dans tout ce qui se passe au niveau technologique, économique, s'annonce la montée d'une crise qui fait que ou bien tout sombrera dans la barbarie complète ou tout changera totalement dans un sens positif et qu'il n'y a pas beaucoup de milieu. Les deux. Ou bien nous deviendrons un monde qui ressemble à ce qu'est actuellement l'Afrique, avec des bandes armées qui s'entretuent. À un moment dans la Mad Max, des bandes armées qui s'entretuent pour pas grand-chose, pour se partager des richesses que personne ne produit plus, pour piller, etc., etc. Ça, c'est une chose qui, même autour de nous, s'indique, et bien sûr, s'indique beaucoup plus fortement dans le Sud. Donc nous pouvons dériver vers ça. Mais aussi, nous pouvons dériver vers ce qui se construit dans les marges. Par exemple, au Brésil, qui sont un nouveau type de coopérative de mise en commun de tout ce qui est produit et de refus de monétariser les productions, de les commercialiser. Le néolibéralisme en tant qu'idéologie dominante a du plomb dans l'aile et même l'économie marchande. L'idée de gratuité fait son chemin, même de façon parfois inattendue, chez des gens inattendus. Vous avez Patrick Vivret qui développe un discours que je considère anti-économique, c'est-à-dire qui demande l'introduction d'une économie complètement différente de celle qui règne pour tenir compte de ce qui n'est pas comptabilisable, calculable, ni expressible en prix et en argent, et qui est la richesse première et la richesse fondamentale. De tout ce qui est humain n'est pas traductible en argent, ni tout ce qui est relève des cycles naturels. Et de mon point de vue, ce passage pourra avoir lieu quand ce système économique s'effondrera. Et je crois fermement à son effondrement. Parce que tous les indices de sa venue sont là. Vers quoi nous allons? C'est-à-dire vers une production où il n'y a presque plus de travail. Et quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de salaire. Donc il faut trouver autre chose. Je crois qu'il y a d'espoir, mais il y a beaucoup de risques. Parce que si l'effondrement se fait trop tôt, sans qu'un certain nombre d'évidences et d'expérimentations à grande échelle aient eu lieu, on va simplement vers la barbarie.
Voilà, André Gorce en 2006. On va se quitter sur ce dernier extrait, Christophe Fourel. Gorce, dans ce passage, vient d'évoquer Patrick Vivret. C'est un des auteurs qui figure dans le bouquin que vous avez dirigé, André Gorce, un penseur pour le 21e siècle. C'est à la découverte, ça a déjà 2-3 ans, c'est ça?
C'est paru en 2009.
C'est paru en 2009, il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous conseillez pour ceux qui veulent rentrer dans la pensée d'André Gorce?
Oh, je pense que spontanément, pour le public non averti, j'aurais tendance à lui conseiller de lire Lettre AD. J'aurais également ensuite tendance à conseiller l'ouvrage posthume qui est paru en 2008, qui est un recueil et qui s'appelle Ecologica, qui est un recueil de textes d'André Gorce et qui montre à quel point sa pensée est tout à fait actuelle. L'extrait qu'on vient d'entendre, je trouve, est de ce point de vue-là extrêmement éloquent. On voit bien à quel point, pour André Gorce, la crise écologique, la crise financière, la crise sociale et du travail ne sont pas dissociables. On ne peut pas les hiérarchiser et que c'est toutes ces crises auxquelles nous avons aujourd'hui à faire face. Et d'une certaine manière, l'actualité, on a déjà évoqué Los Indignanos tout à l'heure du travail, mais ce qui se passe en Grèce, qui sont les répercussions de la crise financière, où on se trouve avec un État qui est au bord de la faillite, d'une certaine manière, et de ce point de vue-là, éloquent. Et enfin, l'actualité aussi est porteuse, parce que l'Allemagne vient de faire le choix de sortir du nucléaire, qui est un choix qui interroge beaucoup. Et je crois que tout ça rentre en résonance avec, effectivement, la pensée d'André Gorce, qui est une pensée extrêmement riche.
C'était la seconde partie de André Gorce, un penseur pour le 21e siècle, une nouvelle version d'une émission préparée par Franck Adhérer, diffusée le 10 juin dernier. Merci à Christophe Fourel. Les archives et la voix d'André Gorce proviennent d'une série d'émissions de France Culture de 1991. Merci également à Catherine Louis de Lina. Demain et la semaine prochaine, La Basse et J'y suis continue de vous présenter les meilleurs moments de l'année de l'émission dans une nouvelle présentation. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis et sur le site là-bas-la-bas. Je reprends la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos, réalisation Franck Aderer, assisté de Grégory Salomonovitch. Vous pouvez dès maintenant laisser vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37. Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Wana Favnek.
Une trahison de l'histoire et des réalités historiques. C'est comme cela que le vice-premier ministre turc voit la proposition de loi votée à la mi-journée à l'Assemblée nationale en France. Un texte qui prévoit de punir la négation de tout génocide, dont le génocide arménien de 1915 que la Turquie a toujours refusé de reconnaître. Sur le plan diplomatique, les relations sont plus que tendues entre la Turquie et la France. Ankara rappelle aujourd'hui son ambassadeur en poste à Paris. La CFDT Police désapprouve le recours aux forces de l'ordre pour remplacer des grévistes. Depuis ce matin à l'aéroport de Roissy, des policiers de la PAF contrôlent les voyageurs et leurs bagages, aux côtés de gendarmes et d'agents de sécurité non grévistes. Pour le syndicat, cela revient à saboter le dialogue social. Les négociations sont dans l'impasse depuis hier. L'augmentation de 200 euros réclamée par les salariés s'est en vue opposer une fin de non-recevoir par le patronat. Le Jabi placé en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce l'a prononcé aujourd'hui, mais les 450 employés du fabricant de lingerie continueront à travailler jusqu'au 20 janvier. La mesure est accompagnée d'une poursuite d'activité jusqu'à cette date. Matignon signe un pacte pour l'emploi des handicapés avec 9 associations. Il prévoit la création de 3000 postes dans des entreprises adaptées ces 3 prochaines années. Eva Joly demande à ce que la Bretagne Sud ait un remorqueur à demeure. La candidate écologiste à la présidentielle était aujourd'hui à Erdeven, sur la plage où s'est échoué le cargo maltais la semaine dernière. Eva Joly rejoint en ces mots la demande du Conseil régional de Bretagne, qui demande un remorqueur pour le golfe de Gascogne pour aider des navires en difficulté en cas de tempête. Son avenir était en suspens depuis plusieurs semaines. Antoine Comboiré s'est fait éjecter du PSG. Selon son entourage, c'est Leonardo, le patron du club de football parisien, qui le lui a signifié, Fanny Lechevestrier.
Limogé, après 29 mois passés à la tête du club. 29 mois, mais peu de répit pour Antoine Comboiré, surtout depuis l'arrivée des Qatariens cet été. Chaque semaine, chaque jour, les rumeurs annonçaient son départ. Pas assez glamour pour un club qui veut devenir grand. Des Coupes de France sur son CV, mais pas de palmarès européen à son actif. Pas assez connu non plus pour gérer des stars comme Beckham. Reste un entraîneur aujourd'hui qu'on peut critiquer sur ses choix tactiques, mais un homme qui a su, malgré les rumeurs, malgré les rencontres sous son nez entre Leonardo et sans doute son futur remplaçant, rester droit dans ses bottes. Comme Boiré, l'image d'un soldat qui est présent et fait le boulot tant qu'on ne lui demande pas de partir, jusqu'à parfois en devenir illisible dans sa communication. Un entraîneur qui, selon une information France Bleu 107.1, avait appris son licenciement dès mardi, dès avant sa toute dernière conférence de presse d'avant-match. Mais fièrement, Antoine Comboiré n'a rien dit. Il s'est effacé sur une ultime victoire, un dernier pied de nez à Leonardo. Fanny Lechevestrier, France Bleu 107.1 à Paris, pour France Inter.
L'Union européenne condamne les attentats en Irak ce matin par la voix de sa chef de la diplomatie. Catherine Ashton dénonce des terroristes qui tentent d'exploiter une situation politique fragile. La dizaine d'attentats commis ce matin à Bagdad a tué au moins 57 personnes et blessé 176 autres. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
Quand la musique donne, Didier Varro.
Didier, on vous écoute tout de suite pour la recette de la bûche de Noël.
Eh bien donc, pour ma bûche de Noël, vous prenez un soupçon de Charles Trenet, une pincée de Stefan Eicher, vous mélangez avec une bonne crème country et vous laissez reposer une heure au son des chansons de Benjamin Biolay et de vous-même Camille. Délice garantie.
Quand la musique donne, demain sur France Inter, à partir de 16h. France Inter. La différence.
Et on retrouve tout de suite Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Anna, bonjour. Carrefour de l'Odéon. «
Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Tout à l'heure, à 16h30, je recevrai le ou la chef d'orchestre, le, je préfère quand même, Laurence Equilbé, chef de chœur, directrice musicale de l'ensemble Accentus. Et elle va nous parler d'un très beau disque qu'on va entendre, rassurez-vous, c'est quand même le plus important. Bien sûr, un disque Félix Mendelssohn avec le Christus, une œuvre inachevée mais magnifique. Et puis des cantates qu'on gagne à connaître en cette période de Noël et puis même dans toutes les époques d'ailleurs. Premier jour de l'hiver, ben oui, bien sûr. Et Vivaldi qui a écrit des petits poèmes, on pense que c'est vraiment lui à côté de ses quatre saisons, à noter, avancer bravement, glisser, tomber par terre, répartir tous ses efforts et courir de toutes ses forces jusqu'à ce que la glace se rompe et se disloque. On entend le sirocco, le vent du nord et tous les autres vents sortir de leurs portes de fer pour se livrer combat. Voilà donc l'hiver, mais aussi il apporte quand même des joies. Ben, à Paris, je peux vous dire, c'est pas du tout ça, il fait doux, c'est tranquille, mais enfin, pourquoi pas écouter cette jolie musique superbe interprété par Carmignola et ses amis. Le final allegro, mais qui change de tempo assez fréquemment et violemment, vous l'avez entendu, c'est très saisissant d'ailleurs cette interprétation. Donc le final de l'hiver des quatre saisons de Vivaldi, interprété au violon par Giuliano Carmignola, avec l'orchestre baroque de Venise dirigé par Andrea Marcone. En ce moment, on parle beaucoup d'un film et on pense qu'il y aura peut-être la chance d'être honoré aux Oscars. C'est The Artist avec Jean Dujardin, fameux acteur, merveilleux acteur français et d'autres interprètes superbes aussi. Mais voilà, une histoire, ça se passe en 1927 à Hollywood, l'histoire d'un homme qui va arriver un peu à l'hiver de sa carrière aussi parce que c'est une vedette du cinéma muet. Et puis, il a beaucoup de succès, il est très content de lui. Mais l'arrivée des films parlants va faire sombrer ce personnage dans l'oubli. Et heureusement, il y a une petite figurante à ses côtés, Pepi Miller, qui elle, au contraire, va être propulsée au firmament des stars grâce à ce changement. Voici l'ouverture de la bande originale, The Artist, le musicien, je dis vraiment musicien, compositeur, qui d'ailleurs nous propose une interprétation d'un très bel orchestre, orchestre flamand. Il a fait son métier comme il faut, à l'ancienne, si on peut dire. Ça sonne, c'est construit, c'est vraiment une partition en soi, même sans le film. C'est déjà très passionnant. Ouverture donc. L'ouverture musicale du film The Artist, une partition signée Ludovic Bourse. Et voici la description du héros, Georges Valentin, et la musique rend bien le personnage, désinvolte, tellement sûr de lui à ce moment-là, enfin au début, quand on arrive dans sa vie. Et puis les charmeurs, il est enjôleur, et là c'est vraiment un portrait artistique, un portrait musical tout à fait saisissant, tout à fait sympathique, et qui nous rapproche véritablement, rien que par l'oreille, du personnage.